Vous êtes comment physiquement quand vous montez, Alexis Armengol?
J'espère que je suis à peu près comme quand je mens pas, mais je sue beaucoup. Je dégouline.
Et vous, Bogina?
Je pense que je suis rouge.
Et Milena?
Je pense que j'ai... Je transpire aussi, j'ai le cœur qui bat très fort. Ouais.
On va se poser quelques questions, et alors si on sent que la réponse est fausse, on lève la main vers la régie, comme ça le détecteur de mensonges se met en route. Bogina Panayotova, vous avez une question?
J'ai peut-être une question pour ma mère. Milena, est-ce que tu as déjà menti à ta fille?
Aïe, on ne peut pas. Question plus difficile. J'ai dû lui mentir, mais là, j'ai pas le tout de suite.
Tu te souviens plus du mensonge?
Non. Mais j'ai dû lui mentir. Ouais, je suis humaine, quoi. Mais moi, j'ai une question pour elle. Est-ce que si j'avais dit non, je veux pas que tu fasses le film, est-ce que tu l'aurais fait quand même?
Alors ça, on me l'a déjà posé cette question, et la réponse est je ne sais pas.
Pour le moment, tout le monde dit la vérité.
Évidemment.
Alexis Armengol, est-ce que vous préférez le jour ou la nuit?
La nuit.
Bogina?
Le jour.
La nuit.
Ah, Alexis Armengol, vous avez failli lever la main.
J'ai failli, c'est vrai. C'est vrai, je me suis dit, il y a bien un moment donné où ça va se déclencher, les mensonges. Donc, je me suis dit, sur cette question-là, j'étais tenté de lever deux fois la main même, à dire vrai.
Mais moi, je peux... Oui, c'est ça. Moi, oui. Je peux faire un petit aveu.
Voilà, c'est ça.
D'avoir menti.
Voilà, c'est ça.
Moi, je pourrais faire la nuit, ça, c'est sûr.
Ça, c'est le détecteur de mensonges. Milena Mikhailova Makarius, c'est dur de mentir à la radio?
Oui, j'étais en train de me dire, est-ce que je mens là maintenant ou est-ce que je mens tout à l'heure? Mais si je mens maintenant, est-ce que je vais pouvoir me rattraper après? Non, je crois que je suis même un peu maladivement attachée à la vérité. C'est quelque chose qui parfois me joue des tours, voilà.
D'années depuis que l'homme existe, c'est le seul animal d'ailleurs qui mente. Il y a des milliers de moyens de faire avouer, soit la torture, chacun a ses petits procédés. Dans tous les pays, la torture chinoise est réputée, mais les autres ne sont pas inférieurs. Lorsqu'on était innocent, on vous torturait jusqu'à la mort, et puis après on disait, bien après tout, peut-être est-il innocent. Mais seulement depuis l'invention du détecteur de mensonges, on sait qu'une personne est innocente.
Il est 23h et la vérité n'a pas de pitié. Bogina Panayotova la cherche à tout prix. À tout prix, même celui de perdre à un moment le sang-froid de ses parents. À 30 ans, elle retourne en Bulgarie et s'intéresse à tout ce qui n'a pas été dit, à ce qui ne se prononce pas. Le secret sépare, il y a ceux qui savent et ceux qui ne doivent pas savoir. Un secret n'existe que pour ou contre les autres. Quand on regarde quelqu'un, on n'en voit que la moitié. Bogina a-t-elle le droit de voir ses parents en entier, de réclamer la vérité? Pour son film « Je vois rouge », elle part aux archives de la police secrète en Bulgarie, demander les dossiers de la famille. Elle a un doute sur l'implication de ses parents, pose des questions aux réponses incomplètes. Elle découvrira, en même temps que sa mère Milena, que celle-ci a été, sans le savoir, agent secret. Mais ses parents s'agacent devant la caméra qui tourne sans cesse. Son père défend un droit au secret. Il ajoute « C'est un peu extravagant de vouloir juger ses parents. Les sentiments ou les renseignements, il va falloir choisir. » La vérité est totalitaire. Alexis Armengol, dans son dernier spectacle, traque le vrai et le faux. Quand la bouche dit oui, le regard dit peut-être, écrit Victor Hugo dans Ruy Blas. Il paraît qu'un adulte ment deux fois par jour, soit par peur des conflits, soit pour prendre soin, dit Alexis Armengol. Peut-être que la vérité ne prend pas soin. Dans une époque où tout doit être visible et à vue, la transparence, la mise à nu, peut aussi sonner faux et nous transformer en espions. Chacun sa fiction, alors, et son mensonge, qui parle autant et devient parfois aussi réel que la vérité. Il y aura donc la réalisatrice Božina Panayotova pour son film « Je vois rouge » sorti en salle depuis le 24 avril. On lui a demandé si elle pouvait venir avec un des personnages principaux, sa mère, en studio avec nous donc, Milena Mikhailova Makarius. Il y aura le metteur en scène Alexis Armengol, son spectacle « Il n'y a pas grand-chose qui me révolte pour le moment » sera à la Comédie de Valence du 21 au 25 mai et tout le mois de juillet à la Manufacture dans le off du Festival d'Avignon. À la musique, Rameau est en studio, il sera en concert le 5 juin au Point Éphémère avant de partir en tournée et son EP s'appelle « À nouveau sauvage ». C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par une enfance parmi les pionniers.
Mon enfance communiste enchantée. Mes camarades pionniers.
Алина Връзка, сестра на Зората, взрели се в нея, аз виждам, планти, лагерен огън, шуми дълнината, свирят фанфари, блестят върхове, дето следи на героите има, пее сърцето и дръзко зове, с Богом чавдарки, сестрички любима.
Я играю на гармошке у прохожих, на виду зажимлей, день рождения только раз в год.
Božina Panayotova, c'était un extrait de Je vois rouge. Vous connaissez encore par cœur le chant ?
Bah oui. En fait, c'était c'est même le point de départ en fait du film. C'est un peu cette chanson parce que dès que je l'entends, ça provoque une telle nostalgie quoi. C'est vraiment très très. Enfin, c'est plein d'émotions quoi cette chanson. C'est une chanson qui est chantée en fait par des petits enfants pionniers russes. Donc c'est des enfants à qui on décerne un foulard rouge, qui du coup deviennent partie du collectif. Voilà, c'est on les appelle les pionniers dans le sens de les nouveaux hommes quoi. Et moi j'avais envie au départ du film, je pensais pas du tout que j'allais m'aventurer dans des histoires de secrets de famille. Je pensais plutôt aller chercher autour de cette nostalgie que j'avais de mon enfance.
Et vous aviez quel souvenir de cette enfance d'avant 8 ans avant d'arriver en France?
Ben, j'avais des souvenirs plutôt très très des bons souvenirs quoi en fait à l'époque on pouvait par exemple je sais pas jouer dehors, on était en pleine capitale et on pouvait moi je sortais tout le temps jouer dehors
sans surveillance
ouais enfin ça je sais pas mais et donc ouais j'avais une je pense une vision très très enchantée ouais de mon enfance. Voilà, et cette chanson, en fait, quand j'ai été en montage après dans le film, et où c'était le sujet est devenu beaucoup plus grave quelque part, plus oppressant aussi, en fait, j'avais envie que le film commence avec cette musique et qu'on me voit chanter cette chanson pour qu'on prenne conscience que je l'avais vraiment incorporée, quoi, cette histoire communiste, que je faisais partie, quoi, de ce même bain que mes parents et que, voilà, je regardais les choses aussi de cet angle-là, de l'enfant et des sentiments et de la nostalgie.
Emilena Mikhailova Makarius, vous êtes donc la mère de Božina. Comment on explique à un enfant qu'un mur s'effondre et que le monde change, qu'on va pouvoir voyager, qu'on déménage ?
Alors, comment on lui explique ? Eh bien, j'appartiens à une génération qui malheureusement ne savait pas que les enfants, il faut les traiter comme des adultes depuis le début. Et je suis pas sûre qu'on ait donné les bonnes explications au bon moment. La preuve, ce film, sans doute. Notre arrivée en France n'a pas été une décision, d'exil. C'était un départ pour quelques mois et qui s'est en fait transformé après en projet, enfin en autre chose. Donc il n'y a pas eu à expliquer ça. Et quant à la grande histoire à expliquer, c'était plutôt son papa qui parlait, puisque moi je viens d'un milieu où les femmes, même si elles ont un métier d'intellectuel, n'ont pas la légitimité du discours social, sociétal. Voilà. Elles font la cuisine et apportent les plats.
Mais c'est pas ce que vous avez fait.
Non, je sais pas ce que j'ai fait, mais pour répondre à votre question, si j'ai expliqué comment j'ai expliqué la chute du mur de Berlin, je ne me souviens pas d'avoir pris ma fille et de lui avoir expliqué les choses comme il fallait, sans doute.
Alors 20 ans plus tard, c'est ce que vous dites dans le film, Bojina, vous retournez avec la caméra pour tout filmer, tout fouiller, tout archiver, en tout cas partir à la recherche de cette histoire. Et vous arrivez à Sofia en Bulgarie, il y a des grandes manifestations contre le gouvernement parce qu'ils sont liés. Donc les manifestants sont contre ce gouvernement lié à la mafia, aux anciens communistes. Enfin en tout cas c'est les accusations qui sont portées contre le gouvernement. Et à ce moment-là vous entendez dans la rue ces ordures rouges.
Oui,
et
en
ça
fait,
vous
n'arrivez gens...
pas à prononcer ces mots-là.
Oui, c'est ça. En fait, les gens de ma génération, surtout, dénonçaient la continuité entre le pouvoir d'avant et le pouvoir d'aujourd'hui. L'idée, c'était de dire, voilà, c'est les mêmes gens qui étaient avant dans les réseaux de l'élite communiste et qui sont aujourd'hui aux manettes et dans les coulisses du pouvoir, avec les oligarques, la mafia, etc. Et donc, un des slogans qui revenait beaucoup, c'était « ordure rouge ».
Contre la corruption. Et...
Voilà, c'était une manière de nommer la corruption, les mafieux, etc. Mais il se trouve que ce mot « rouge »,« ordure rouge », communiste collabo. Moi, j'avais un peu du mal à l'entendre aussi. J'entendais, j'avais l'impression qu'on s'adressait aussi à mes grands-parents, à ma famille, à moi aussi, comme j'avais cette nostalgie de mon enfance, quoi, communiste. Et du coup, ça a été, ouais, le point de départ vraiment qui a lancé ensuite l'enquête et toutes les questions plus inconfortables, c'est venu de là parce que je me reconnaissais dans ces jeunes qui manifestaient dans la rue, j'avais envie de les suivre quelque part, de participer à ce mouvement et en même temps j'avais déjà l'impression de trahir quelque chose de ma famille, quoi.
Et dans le film, c'est un montage de plein d'images différentes, à la fois vos images de Sofia en Bulgarie et puis beaucoup de Skype aussi et d'images par téléphone, parce que dès que vous vous posez une question, vous appelez soit souvent votre mère ou votre père, votre ami, et donc on suit l'enquête de façon chronologique. Milena, est-ce que vous saviez depuis le début que vous jouiez dans un film quand vous avez commencé à répondre aux premières questions?
Oui, parce que en fait, il y a eu un sort de deal avec ma fille que elle veut que toutes nos conversations soient enregistrées. Donc oui, je savais et au début, j'étais absolument enchantée de ma fille.
Vous vous attendiez à quelle question?
Me pose des questions. Pardon.
Vous vous attendiez à quelle question?
Je m'attendais pas. Je pense pas que je me posais cette question-là, mais elle voulait que je lui raconte notre vie de l'époque et puis voilà, je racontais et puis j'étais super contente. Hein, j'étais émue, j'étais fière, tout ce qu'on veut.
Et à partir de quel moment c'était inconfortable ces questions?
Eh bien, à partir du moment où, à partir de la réponse de la commission des dossiers qui a dit vous avez un dossier. Voilà, à partir de ce moment-là, c'est devenu. Mais disons que je ne sais pas si vous savez quand vous êtes enregistré tout le temps, à un moment donné, effectivement, vous oubliez ça. Donc vous le savez, puis vous le savez plus, puis après vous le savez. Enfin, c'est voilà. On ne peut pas être seulement dans quand c'est tout le temps. On ne peut pas vivre avec la pensée qu'on est enregistré.
Dans le contrôle, quoi.
Non. Voilà, c'est ce qu'elle cherchait.
Il y a un autre personnage, à part la famille, c'est le moniteur d'auto-école, puisqu'il y a des séquences qui se passent dans la voiture, vous êtes en train d'apprendre à conduire Bojina à Sofia. Mm-hmm. Et lui, c'est un peu comme un guide ou en tout cas un confident pendant l'enquête qui vous dit de façon très tranquille que sûrement vos grands-pères faisaient partie du renseignement, que forcément il y a des dossiers qui en tout cas vous incitent à aller chercher un peu plus loin.
Oui, en fait, lui, il vient pas du même milieu que ma famille. En gros, nous, on est des intellectuels. Et sous le régime communiste, les intellectuels avaient une certaine position aussi par rapport au pouvoir, ou en tout cas, pour quelqu'un qui n'en fait pas partie. Aujourd'hui, quand on dit, bah voilà, mes grands-parents étaient, en l'occurrence, critiques de cinéma, ils travaillaient au ministère, etc., etc.
Bon, bah, pour
lui, ils voyageaient. Pour lui, c'est évident qu'ils étaient dans le système et c'est pas du tout, il m'annonce pas du tout, lui, il a pas du tout l'impression de m'annoncer une grande nouvelle, quoi. C'est une banalité, ce qu'il me dit. Sauf que moi, bah, en fait, j'avais pas questionné quelle était notre place dans la société et surtout qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire en termes de pouvoir, en fait, voilà, peut-être d'éventuellement de privilèges et qu'est-ce que c'est par rapport aux autres, quoi. Voilà, et donc après, le moniteur, oui, dans le film, c'est vraiment un personnage qui... En fait, je passais vraiment mon permis de conduire, et en même temps, il y avait ces conversations, en plus du code de la route, quoi, et des chemins à prendre, il y avait une conversation qui, du coup, amène un point de vue sur mon propre cheminement. C'est quelqu'un qui me remet un peu les pendules à l'heure de temps en temps, qui est comme un psy, voilà. Et voilà, donc l'idée
c'était... Et vous rentrez dans un rôle petit à petit, vous avez l'impression au fil du tournage et vous partez aux archives de la police secrète, en effet, demandez les dossiers, vous vous rendez compte qu'il y en a un sur votre mère et vous allez aller ensemble voir de quoi il s'agit. Est-ce que petit à petit vous avez l'impression de rentrer dans un rôle de votre propre film de...
Ah bah oui, complètement. Enfin, en fait, je suis à la fois moi-même et à la fois c'est comme une partie de moi-même qui prend le dessus, un peu comme si j'étais possédée par... un peu comme un acteur peut être possédé par son personnage. Et en l'occurrence, cette partie de moi-même, c'était la partie pas forcément la plus glorieuse, quoi. C'est-à-dire... très très opiniâtre jusqu'au boutiste, espionne du coup aussi par moment, enfin qui s'est mise en tout cas à pousser le bouchon assez loin, quoi.
C'est assez drôle, on va parler de la réaction de Milena, mais votre père aussi s'agace assez rapidement quand vous commencez votre enquête. Et alors il dit « Ne rentre pas dans une paranoïa post-communiste, arrête avec cette manière française d'entrer dans le détail et cet air affecté complètement ridicule. » Et il se moque de votre enthousiasme révolutionnaire qui veut décapiter tout le monde. Et qu'il n'est pas tendre.
Oui, bah effectivement, là, il y a notamment la participation de la culture française. Ce à quoi il renvoie, c'est le fait que, plus tard dans le film, il parle de ma frénésie psychanalytique aussi. C'est un peu la même chose. C'est l'idée que... voilà, je suis en train d'aller chercher dans des détails, je les grossis pour soi-disant déterrer des vérités, mais en fait ce que je fais c'est que je manipule tout et j'enlève les nuances pour créer un tableau complètement mensonger.
Mais pourtant vous n'arrêtez pas.
Bah non, j'étais effectivement dans une frénésie, ça il avait raison pour la frénésie.
Et ma mère en fait réalisait la situation, c'est là qu'en fait elle comprenait que bah oui effectivement donc... En fait, elle était probablement vraiment enregistrée comme agent secret par ce type, sans le savoir. Tu vois le truc. Et qu'elle avait un pseudonyme, elle ne savait pas qu'elle avait un pseudonyme, tu vois. Et en même temps, à ce moment-là, il était en mode un peu comme ça. Et donc, il disait, ouais, enfin bon, enfin tu savais à qui tu avais affaire, quoi. Et puis, ou bien il glissait des trucs du genre, oui, enfin, on t'a aidé. Et tu vois, ma mère est à la fois complètement sous le choc du truc. En même temps, moi, je suis présente et donc elle est tout le temps en train d'essayer de se justifier face à moi, tu vois. Donc tout le temps, elle dit « Non, mais Trai, tu peux lui dire... c'est quoi les informations ? Tu peux lui dire alors, du coup... Non, mais c'est indescriptible, en fait, cette situation. »
Et un tout petit peu plus tard, vous discutez avec votre mère... Milena, Bojina, et puis elle vous dit d'arrêter la caméra.
Добре, сега вече с нищо не записваш, нали?
Не.
Добре. Limitva je si ako, това, което мене ме измъчва, е, че не си спомням какво точно съм си говорила с Трайчо. И дали пък в тия разговори не съм, без да искам, навредила на някой.
Еми, да, разбирам.
Божина, защо свети червена парата? Ти какво е това копче? Ти за каква ме взимаш, Божина? Ти продължаваш да записваш, след като току-що изрично ти казах да спреш. Не знам, това, което правиш, ме шашва. Шашва ме. Бащата ми беше казал, че прекаляваш, ама това пък вече гати. Трябва да се разходим.
Qu'est-ce qui se passe quand Božina est dans la caméra, Milena?
En fait, je lui demande d'arrêter d'enregistrer et je me rends compte qu'elle me dit oui et je me rends compte qu'elle ne l'a pas fait. Je vois une petite lumière rouge et je vois que non, elle continue à enregistrer. Voilà.
Et vous n'êtes pas contente?
Ah non, non. c'est très faible comme...
Et à ce moment-là, c'est, le film bascule dans un conflit et ça parle à la fois du cinéma, à la fois du documentaire, de qu'est-ce que c'est d'enquêter sur la vie de quelqu'un. À un moment donné, Milena, vous lui dites « Mais c'est ma vie, c'est pas la tienne, comment tu peux la juger? Je te donne pas l'autorisation de te servir de ces informations puisque vous venez de découvrir que finalement vous aviez été, sans le savoir, recruté pour transmettre des informations, vous poser des questions, mais vous saviez pas tout ça. » Est-ce que vous avez réellement interdit à un moment donné à votre fille de faire ce film?
Je lui ai écrit une lettre à la fin de cette semaine folle. Je lui ai écrit une lettre dans laquelle je lui ai dit que la décision maintenant m'appartient, qu'elle n'a pas le droit de l'utiliser et que c'est à moi de... Je vais réfléchir et que ce sera à moi de prendre la décision. Voilà. Et après, ça a pris un certain temps. En fait, la décision, je l'avais prise tout de suite. Hein. Je savais que j'allais dire oui, mais il me fallait quand même du temps pour, d'une part, pour sortir de ce cauchemar claustrophobique qui était la découverte d'un côté, la caméra de l'autre. Ensuite, pour prendre du recul, pour réfléchir, et puis. Pour être sûr que cette fois-ci, c'est moi qui prendrai la décision, je ne serai pas, comme j'ai été une marionnette dans le temps et personnage dans le film de ma fille, que là, ce sera ma décision de dire oui. Voilà, donc je l'ai fait un petit peu attendre et je lui ai un peu menti en lui disant que je réfléchis. Voilà, je voulais aussi voir si elle arrêterait, si je dis non. Je n'ai pas compris. Et voilà, donc en fait, je savais depuis le début que j'allais dire oui parce que bah, d'une part, je m'identifiais probablement à elle un peu et que je voyais que c'est un vrai sujet, que c'est en plus une aubaine pour son film et puis que c'est quelque chose qui peut pas rester comme ça, une découverte qu'on va encore enfouir ou que voilà, on va en faire un plus grand mensonge. Enfin, c'était pas possible.
Et vous étiez sûre, Božina, qu'elle allait dire oui, même en attendant la réponse?
Ouais, je crois que j'étais sûre. Ouais, oui. Ouais, je pense que, en fait, pendant tout le tournage, quand bien même on s'engueulait, etc., je pense que je faisais confiance au fait qu'on allait se rendre compte à un moment donné qu'on parlait pas seulement de nous, qu'on était en train de faire comme métaphore et que, du coup, ce plus grand collectif, ces figures, tout ça allait nous convaincre tous ensemble qu'il fallait aller au bout.
Et sans le film, Milena, vous n'auriez pas fait la découverte d'une partie de votre vie? Sûrement, qu'est-ce que ça a modifié, ça, pour vous?
Qu'est-ce que ça a modifié? Écoutez, c'était un moment... effectivement, j'aurais jamais pensé qu'en ayant fait un travail d'interprète comme étudiante, que dans ce travail d'interprète, tous les jours, il fallait qu'à la fin de la journée, on réponde à quelqu'un en civil sur les questions qu'on nous a posées sur la Bulgarie. C'était ça, les pratiques dans la Bulgarie communiste. Et j'ignorais que ça a valu, effectivement, d'être enregistré à 20 ans comme agent de la police secrète. Vous voyez, le choc des mots est quand même très grand. Mais je n'aurais jamais, personnellement, demandé de savoir si j'ai un dossier, puisque j'ai quitté la Bulgarie à 30 ans, j'étais pas un personnage public, voilà, donc je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait quelque chose de cet ordre.
Et ça vous a donné envie d'écrire, puisqu'à la fin du film, on peut lire que vous avez écrit sur cette histoire.
Oui, j'ai écrit un roman, et effectivement, alors... Au début, je voulais écrire sans doute pour donner mon point de vue de cette affaire. Ce texte est aussi le making-of du film, puisque je raconte comment je me sentais devant cet impératif d'être tout le temps enregistré. Et en même temps, je voulais aussi retourner la situation et faire de ma fille mon personnage, et du flic aussi, mon personnage, mes personnages.
Elle a accepté ? Vous lui avez posé la question ?
Ouais, elle était très contente, en fait. Que je sois ton personnage, parce que quelque part, ça nous a rendus complices, et puis c'était une manière de cheminer en parallèle, en fait. Pendant que je montais, ma mère écrivait, et... Je pense que l'une et l'autre, on se rendait compte de ce travail, effectivement, de manipulation ou de mensonge qu'on peut faire à certains endroits au nom justement de la métaphore et du récit. Et quelque part, je ne sais pas si c'est ça qui a fait aussi que tu as accepté que le film sorte aujourd'hui, etc. Mais moi, j'ai l'impression que ça a aidé notre processus.
Oui, absolument. Ce texte, en fait, ça a été aussi une révélation pour moi sur un autre plan. Ma fille me demandait sans cesse pourquoi je ne connaissais pas des victimes du régime. Et effectivement, je croyais ne pas connaître, en fait. Et comme elle revenait tout le temps sur cette question, j'ai commencé à poser moi-même la question à mes amis, à mes proches, et je me suis rendu compte que j'en connaissais beaucoup. Même mes amis les plus proches me disaient qu'ils avaient un père qui avait fait un camp, enfin voilà, qu'il y avait vraiment des réelles souffrances, mais qui étaient cachées, et que quand je disais « mais pourquoi tu m'as jamais rien dit ?», on me disait « mais parce que c'était des choses dont il fallait surtout pas parler pour faire partie d'un monde... » Qui soit un peu possible. Voilà.
Bojina Panayotova, votre père, finalement, il a dit oui aussi ?
Mon père, il a dit oui, mais c'est plus compliqué. C'est un processus qui est encore en cours. Et c'est un peu aussi à l'image du pays. C'est-à-dire qu'en Bulgarie, le film, il est sorti là-bas aussi. Et ça provoque des dialogues, des gens qui vont demander leur dossier, mais aussi des gros scandales, quoi. Des gens qui sont très heurtés, quoi, par le film. Donc moi, je sens que le film, c'est vraiment comme une partie d'un processus plus large.
Alexis Armengol, vous pensez qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas de vos parents ?
Ah oui, je pense, oui. après, peut-être pas dans ce domaine-là, mais c'est sûr. Moi, par exemple... Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas de ma mère, par exemple, qui est arménienne. Qu'elle ne connaît peut-être pas non plus, puisque ce qu'elle m'a raconté, même de la famille, de sa famille, de son voyage, elle pensait que c'était Arménie qui est allée née au Caire, et puis arrivée en France, au final, on s'est rendu compte que c'était une partie de la famille qui était déjà à Istanbul, mais qu'elle l'avait, on ne sait pas, oubliée, ignorée, elle savait pas, on lui avait raconté autrement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de parties. Ça me fait rebondir sur ma grand-mère, même exactement. J'ai regretté de ne pas lui avoir posé plus de questions et jusqu'au bout. Et je me dis que, justement, il faudrait que je le fasse avec ma mère, mais je pense que c'est faire aussi avec tout ce qu'elle ne sait pas d'elle-même.
Donc, exactement comme dans le film, d'ailleurs. Vous avez découvert ce que votre mère ne savait pas d'elle-même.
Et oui. Mais de toute façon, c'est un gros... ce film, c'est vraiment le retour du refoulé à tout point de vue. Et c'est un peu comme... voilà, on dit l'inconscient sait, mais il ne sait pas ce qu'il sait.
Et c'est quoi les questions que vous n'avez jamais osé poser à vos parents ou grands-parents, Alexis Armengol ?
Que je n'ai jamais osé poser... Je crois que j'en ai posé pas mal. J'en ai posé pas mal aussi parce qu'on parlait de psychanalyse. Finalement, sans doute au début de l'analyse, ça passe peut-être un peu par là aussi. Après, Je pense que j'ai posé pas mal de questions que j'ai réoubliées. C'est-à-dire comme si j'oubliais, mais des choses plus intimes sur la naissance, sur jusqu'à quand ils étaient ensemble, pourquoi. J'ai toujours appelé, par exemple, c'est un détail, mais toujours appelé ma mère par son prénom, Diana, et mon père par son prénom, Pierre, et jamais papa, maman, et je crois que j'ai toujours insisté là-dedans, et je ne sais toujours pas pourquoi, peut-être eux-mêmes, ils ont renoncé à répondre.
Apparemment, sur son clavier d'enfant, Rameau reprenait déjà les mélodies de Jean-Michel Jarre. Il grandit à Laval, adore rester devant les tableaux de Douanier Rousseau. Plus tard, il apprend la guitare, joue pour plusieurs groupes avant de devenir Rameau, créature poétique mi-homme, mi-animal. Il aime dire qu'il fait de la musique optimiste, il apprivoise la nostalgie et son dernier EP s'appelle « À nouveau sauvage ».
Bonsoir, je suis Rameau, en studio avec Alexis Armengol, Bojina Panayotova et sa mère Milena Mikhailova Makarius. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
Sous l'effet de l'émotion provoquée par exemple par le mensonge, la pression artérielle et le rythme cardiaque peuvent être perturbés. Le rythme et l'amplitude des mouvements respiratoires peuvent être modifiés et les glandes sudoripares peuvent produire un excès de sueur. Et ce sont tous ces phénomènes qui se trouvent être enregistrés en même temps par cet appareil.
Oui, l'enregistrement de ces trois phénomènes est synchrone et les trois tracés s'inscrivent en même temps sur la même feuille, comme vous pouvez le voir vous-même. Mais voulez-vous, commençons l'expérience. Sur ce petit papier, il y a six noms d'inscrits. Le vôtre y est.
Oui, monsieur, oui.
Eh bien oui, j'ai inscrit ces noms avec monsieur. Je ne connais moi-même absolument aucun de ces noms. Et vous allez, je crois, demander à monsieur de répondre non à toutes les questions.
Je vais l'appeler par chacun de ces noms et il devra toujours me dire non. Nous allons voir si, à ce moment-là, l'appareil révèle son nom. Je mets l'enregistrement en marche. Alors, vous voyez sur l'enregistrement le cœur, n'est-ce pas? Ce dessin sinusoïdal caractéristique. Ne regardez... Vous, ne bougez pas, surtout. Êtes-vous prêt? Vous appelez-vous Dumont?
Non.
Car?
Non.
Chevillet?
Non.
Desjeunes?
Non.
Vicky?
Non.
Zagiac?
Non.
Eh bien, les six noms ont été appelés maintenant, et je crois que M. Susini vient d'arrêter l'appareil et va regarder le graphique qui vient d'être ainsi tracé. M. Susini va maintenant faire un nouvel interrogatoire dans le sens inverse, de façon à voir si c'est toujours à la même question que peut se produire là où les perturbations.
Sortons ce graphique et regardez.
Eh bien, il me semble qu'un des tracés fait une pointe à la question numéro 5, lorsque vous avez appelé les noms.
Exactement.
Et donc, je regarde la liste. Le numéro 5 correspond au nom de Vicky. Vous appelez-vous Monsieur Vicky?
Mais oui, je m'appelle Richard Vicky.
Eh bien, c'est parfait, merci. Je ne vous demande pas votre carte d'identité, j'ai confiance.
Leur test de détecteur de mensonges marchait un petit peu mieux que le nôtre. Alexis Armengol, dans le spectacle, il n'y a pas grand-chose qui me révolte pour le moment. Vous parlez de sous-réalisme. C'est pas du surréalisme, mais c'est du sous-réalisme. C'est quoi le sous-réalisme dans lequel on va entrer?
Alors, est-ce qu'avant de répondre à la question, je peux dire que c'est une création qu'on a fait à plusieurs? On était trois avec Ludovic, Barthes et Mathilde Desmarais qui font tous les deux partie de Clinic Orgasm Society. Alors pourquoi le surréalisme? Justement, on parlait, c'est un peu à défaut, je dirais, c'est-à-dire qu'on parlait... parce que c'est une pièce, alors maintenant, on dirait qu'elle est sur le mensonge, après avoir travaillé, parce qu'au début on ne savait pas du tout sur quoi on allait écrire et ce qu'on allait créer. Et donc évidemment il y a une histoire, il y a une fiction, mais ça c'est aussi l'histoire de notre théâtre, en tout cas alors ça joue sur la réalité, la fiction, les personnages, enfin ce qu'on connaît bien au théâtre, et donc on se posait la question du réalisme dans le jeu notamment, et dans ce qu'on voulait, dans la façon de raconter les choses, du réalisme, du surréalisme aussi comme un clin d'œil, puisque nos deux amis sont belges. Et puis on s'est dit non, ça va pas être ça, on veut pas faire quelque chose de réaliste. Au début ça devait s'appeler, en tout cas nous ce sera pas réaliste. Puis après le surréalisme, on avait dit mais surtout pas, ils ont dit surtout pas. Et du coup on s'est dit mais il nous reste le sous-réalisme. Mais c'est venu un peu comme ça, comme beaucoup de choses dans cette création. À un moment donné on s'est dit tiens, on a l'impression qu'on crée en aquaplaning. C'est-à-dire on part de quelque chose, et alors l'aquaplaning, évidemment, il y a deux options finales. Hein, il y a celle qui va vers le crash, qu'on ne se souhaitait pas à aucun moment, ou celle où on peut profiter de cette glissade pour inventer des nouvelles figures, on va dire, ou une souplesse particulière, parce qu'on est en train de glisser comme ça sur l'eau. Là-dedans, on est voilà de dérive, d'aquaplaning en digression. On est tombé sur le surréalisme. On s'est rendu compte à ce moment-là que c'était un mouvement, que ça avait été un mouvement. Mais pas théâtral. On s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, ou en tout cas à tourner autour de ça? Mais c'était plutôt comme une entrée en jeu et en plaisanterie que comme un fondement de notre matière théâtrale, quoi.
Et alors la pièce puisqu'on parle de réalisme et s'ancre pas du tout dans un décor et des réalistes, puisqu'on est en présence de fausses moustaches, de chapeaux de cow-boy, de déguisements en tout cas. Tous les trois, vous avez créé des personnages. C'est arrivé comment le cow-boy ?
Alors le cow-boy, il est arrivé un peu pareil, c'est-à-dire qu'on s'est dit comment on va s'habiller au bout d'un moment. Et on a travaillé longtemps à la table, une partie là-bas, au Varia, là où eux sont en création, et puis une partie au Volapük à Tours. Et au bout d'un moment, on s'est dit, il faut bien qu'on ouvre notre travail, comme ça, il va y avoir des gens. C'est le principe, normalement, un peu du théâtre, c'est-à-dire au bout d'un moment, des gens arrivent dans la salle, et on s'est dit, comment on va s'habiller ? Et finalement, à cette question, la réponse évidente, enfin, qui aurait été simplement, c'est-à-dire en jean, en t-shirt ou en chemise, on s'est dit mais finalement notre jean et notre t-shirt va pas être plus vrai. C'est pas plus vrai dans la création qu'on est en train de faire que l'habit de cow-boy. Alors il est jamais question de cow-boy, mais on trouvait que ces habits de cow-boy, puisqu'on est habillé intégralement effectivement en cow-boy et tous moustachus, hommes et femmes, que c'était aussi vrai. Que le jean et le t-shirt qu'on aurait de toute façon choisi pour nous mettre en valeur, sans doute.
Et vous vous moquez justement des codes théâtraux parfois. Par exemple, un des personnages entre et dit « mais elle n'est pas crédible mon entrée, pourquoi, comment ?» Et puis ensuite, il y a un vote contre les repas dans les scènes réalistes au théâtre.
Oui. Effectivement, on s'en amuse beaucoup. On se retrouve on est en quadrifrontal. Faut dire ça aussi, c'est que on est vraiment le public est avec nous dans la pièce. Alors ça, c'est pareil, c'est parce que la première présentation était dans une vraie pièce. Donc il y avait du public, comme ici, le long des murs. Et puis on s'est dit, tiens, on veut passer sur un plateau, mais on veut pas perdre ça. C'est-à-dire que finalement, l'impression de proximité, d'extrême proximité, parce que les gens sont à un mètre de nous, devrait renforcer cet effet où on se dirait, oui, mais ils sont tellement près qu'ils nous voient, qu'ils nous devinent, qu'ils voient dans nos yeux, on est plus près du regard, des visages, de je sais pas quoi, de la sueur, des expressions. Et en fin de compte, nous, on fait comme s'ils étaient pas là. Donc déjà, il y a ce truc de, ils sont à la fois tout près et pour nous absents, apparemment absents. Et donc là, dans ce contexte-là, évidemment, c'était... pour nous, c'est vraiment un jeu de partir sur... Oui, elle entre et peut-être c'est pas du tout... Elle entre donc en cow-boy, moustachu, puisqu'en l'occurrence, c'est Mathilde qui dit ça. Et elle nous demande, mais c'est pas quoi, c'est pas crédible. Mais même nous, au bout d'un moment, qu'est-ce qui serait crédible ? Est-ce qu'elle est censée être crédible en tant que notre frère ? Parce que c'est notre frère dans la pièce. Donc, est-ce qu'elle est crédible en tant que notre frère, en tant que personnage, en tant qu'actrice ? Est-ce que le projet même, il... Voilà, donc c'était... ces questions-là sont une façon de... Et évidemment, nous, on dit non, tout va bien. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on joue sans cesse, y compris sur les changements de mots, c'est-à-dire qu'on change des lettres dans les mots, et finalement, ça peut sonner aussi, j'allais dire aussi vrai. En tout cas, ça peut sonner avec autant de pertinence sur l'émotion qu'on est en train de raconter à ce moment-là.
Et dans la pièce, c'est comme une expérience qu'on traverse pendant un peu plus d'une heure, dans la fiction, dans des instants de vérité, et puis on parle aussi du mensonge, on se pose des questions sur la vérité, sur le mensonge. À quel moment dans la création, puisque vous dites on savait pas exactement ce qu'on allait raconter, cette question-là, elle s'est posée du vrai, du faux? Est-ce que c'est quelque chose dans votre théâtre qui se pose aussi depuis un moment, même si ça n'en parlait pas directement? À qui on s'adresse, comment, qu'est-ce qu'on donne de soi?
Exactement. C'est-à-dire, enfin, je dis exactement à la deuxième partie de la question, puis je vais répondre à la première après. C'est-à-dire que une des premières pièces qu'on a créées, c'est Cette fois dans ta bouche. Ça s'appelait Cette fois dans ta bouche. C'était sur la parole et notamment entre deux frères, parce que c'était un dialogue de ces deux frères emprunté à la Garce, de Juste la fin du monde. Et donc, effectivement, ils parlent. Il y en a un qui parle et l'autre qui écoute. Et il essaye de lui dire... Alors, il y a quelqu'un, d'ailleurs, Louis vient pour dire quelque chose, pour dire qu'il va mourir. Il ne le dira jamais de la pièce. Et l'autre, son frère, lui dit tout ce qu'il n'aurait pas... Tout ce qu'il n'a pas eu le temps de lui dire pendant toutes ces années où il était absent. Là aussi, c'est une histoire de fratrie, cette pièce-là. Il n'y a pas grand-chose qui me révolte pour le moment. Et donc, effectivement, pendant 10 ans, moi, j'ai travaillé avec les mêmes comédiens, 4 mêmes comédiens. Ils se sont toujours appelés dans toutes les pièces par leur prénom. Donc il s'appelle dans la vie Alexandre, Laurent, Stéphane, Camille, et dans toutes les pièces il s'appelait comme ça. Alors là aussi ça joue sur tiens, mais en même temps on savait évidemment qu'il n'était jamais sur scène, enfin ou en tout cas très peu. Alexandre, Camille, Laurent, Stéphane, ils étaient des personnages ou pas. Puis un jour on s'est dit tiens et si on jouait Platonov. Et qu'est-ce que ça ferait si au lieu de s'appeler Stéphane, on s'appelait Sergueï? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça va changer fondamentalement quelque chose? Donc oui, la question de l'adresse au spectateur, de comment on est sur un plateau, comment on...
Et ça a changé quoi de passer à Sergueï?
En tout cas dans le jeu, dans la façon d'y être, je dirais, j'ai l'impression pas grand-chose. Par contre, ça nous a fait aussi beaucoup de bien de... On se disait à cette époque-là, enfin je dis à cette époque-là, c'était en 2012, mais bon, j'ai l'impression évidemment le temps avance, que il y a beaucoup d'intime sur scène, il y a toujours énormément d'intimité, je veux dire dans le travail des acteurs, des interprètes, dans ce qu'on y met, dans ce qu'on y projette, et en même temps il n'y avait jamais de privé. On refusait le privé, c'est-à-dire que on voulait pas qu'il y ait de confusion, on travaillait jamais sur. En plus, on se connaissait beaucoup, on vivait longtemps. Souvent ensemble, comme dans beaucoup de compagnies, parce qu'on tournait ensemble pendant de nombreuses années. En même temps, ça venait jamais faire confusion sur le plateau. Alors voilà, ça a renforcé cette idée-là, je dirais. Ça a renforcé, mais on y retournait après. C'était dans les créations d'après, on y retournait à nos et à leurs prénoms, en se disant que finalement, le théâtre qu'on avait, le vocabulaire ou la grammaire scénique qu'on inventait ensemble, elle se faisait quoi qu'il arrive, finalement. Pièce préalable ou pas, texte préalable ou pas, elle se faisait avec les interprètes, à partir des interprètes. Voilà. Mais là, en l'occurrence, dans Il n'y a pas grand-chose qui me révolte pour le moment, on a changé nos prénoms. On s'est posé évidemment toujours les mêmes questions. On a changé nos prénoms. On a transposé pour ces cow-boys-là. Alors, pour répondre à la première partie de la question, je ne sais pas si oui, sur le mensonge, c'est arrivé, en fait, on voulait assez vite, on voulait parler de ça, du mensonge, parce que nous, on se connaissait pas sur scène, hein. C'était ces deux compagnies, on se connaissait, on s'était vu, mais on s'était pas pratiqué sur scène. Et en fait, en travaillant, on sentait bien que toutes nos questions étaient sur le théâtre, théâtre du réel, théâtre réaliste, théâtre, voilà, toutes les formes théâtrales. Donc, on savait que notre sujet était un peu là, c'est-à-dire est-ce qu'on allait être au présent ou être dans la fiction, être... Donc, on est parti de ça. Et puis, c'était la coloc. Au début, c'était une coloc, puis une fratrie. Donc dans la fratrie, évidemment, dans les frères, dans la famille, on a toujours cette question du mensonge ou de ce qui ne s'est pas dit. Et puis après est venue dans la création une histoire. Alors je me suis dit hier, je ne sais pas que j'allais pas forcément citer son nom parce que j'ai vu qu'il avait essayé d'effacer son casier, qu'il avait effacé son casier judiciaire en 2015. Alors ça doit être pour une raison. Mais enfin est venue l'histoire une histoire vraie de cet homme qui a pris 500 identités fictives. Dans sa vie, qui s'est fait passer pour des adolescents, et notamment pour un adolescent, c'est un Français, pour un adolescent texan, qui s'appelait Nicolas, pour ceux qui veulent faire des enquêtes. Et donc, il a été intégré dans cette famille, puisque ce Nicolas avait disparu. Et lui est revenu via aussi le FBI, via dans cette famille, et accepté. Alors, pourquoi une famille et une mère, bon, mais une mère, des frères, des cousins, acceptent quelqu'un qui était visiblement blond, aux yeux bleus, et cet homme, cet adolescent, est brun, aux yeux marrons. Donc, on a dit qu'il y a eu des psychiatres, des psychologues, pour dire que oui, mais avec le traumatisme, avec ce qu'il avait vécu, la couleur des yeux avait pu changer, avec... Mais quand même, une famille a accepté. Et ça nous a bouleversés, aussi, dans notre... Finalement, tout ce qu'on avait pressenti, imaginé, rassemblé, ça faisait corps, d'un seul coup, avec cette histoire supplémentaire, en milieu de création, on va dire, et c'est vrai que ça nous a inspirés pour réécrire notre propre histoire, mais qui s'inspire quand même de celle-là. Et pour revenir au mensonge, finalement, ce qui est beau, je trouve, le moment en tout cas que moi j'aime, que je préfère, ou en tout cas, c'est le moment où la vérité éclate. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qui veut l'accepter ou pas? Évidemment, tout est là, c'est-à-dire que cette vérité, il y a une vérité qui est évidente, qu'on ne pourrait pas refuser, et pourtant, on n'a pas tous la même réaction, c'est-à-dire que moi, en l'occurrence, je préfère me dire que cette vérité-là, qui est là, de la refuser, de rester comme avant. Finalement, restons dans l'imaginaire.
Jusqu'ici, Tout était pour eux assez simple. La violence était violente. Le mensonge était quelque chose de moche. Les garçons vachers couraient après les vaches. Les parents faisaient ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Les histoires tristes nous tiraient des larmes. Un bon moral était essentiel contre le cancer et le cerf-volant était avant tout un hobby. Enfin bref, la réalité était réelle et tout ce qu'ils avaient vécu était vrai. Et puis soudain...
C'est un petit extrait de « Il n'y a pas grand-chose qui me révolte pour le moment », Alexis Armengol. À un moment donné, la réalité arrive et se pose la question de... Est-ce que ça rend fou, la vérité ? Est-ce qu'on a envie de l'accepter, ce que vous disiez ? Et surtout, elle fait très mal, en tout cas, elle fait des dégâts quand elle arrive.
Là, dans la pièce, là, on est en train de parler de la pièce, oui. Elle fait des dégâts. Et le choix de refuser la vérité ne peut que créer, de façon assez évidente, une espèce de split, on va dire, de séparation entre ce qu'on peut penser, ce qu'on est en train de penser, ce qu'on va accepter. Donc là, on se réfugie. Mais encore une fois, c'est-à-dire que tout est dans la pièce, est à lire aussi du côté du jeu. Je dirais de notre plaisir à jouer ensemble et tout ça. On se réfugie dans une partie un peu, ce que nous on appelle la partie quantique, puisque ce qui va dévoiler la réalité est enfermé dans un frigo. Et donc toute la question est de savoir pourquoi on ouvrirait ce frigo. Et donc je vais essayer de faire en sorte qu'on ne l'ouvre pas, puisque finalement, même si on l'ouvre, ce ne sera qu'une réalité à l'instant T. Mais à l'instant T plus 1, elle sera différente, puis encore différente, puis comme des couches, un millefeuille de ces réalités. Et pourquoi on en choisirait une plutôt qu'une autre ? Enfin, voilà, donc on part comme ça dans ce enjeu, on part en jeu là-dessus.
Il y a une phrase à un moment dans le spectacle, « Je crée une réalité qui puisse te servir de béquille ». Finalement, c'est celle-là qu'on préfère.
Exactement, oui. C'est-à-dire, c'est un peu dans le même coin que c'est pour prendre soin. On ment deux fois par jour.
Et les gens qui mentent, apparemment, ont les paumes tournées vers le ciel. Il faut le savoir, c'est ce qu'on apprend.
Exactement, dans un livre. Mais en fait, c'est ça, une création, c'est fait de plein de lectures comme ça. Là, c'est le livre d'un ancien du FBI, en l'occurrence, qui nous dit ça, que ceux qui mentent, on les met comme ça, quoi, et que c'est comme ça qu'on les reconnaît.
Milena Mikhailova-Makarius, est-ce qu'à un moment, vous avez pensé refuser la vérité, comme le dit Alexis Armengol, ou en tout cas, ne pas vouloir... l'accepter, en parler.
Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas du tout eu le temps. Et en même temps, il y a une autre vérité. Il y a d'autres vérités qui sont que finalement, on a besoin d'un récit. Hein, on a besoin de faire de notre vie. Et les enfants ont besoin d'un récit. Enfin, chacun a besoin d'un récit. Et chercher ce récit, c'est chercher un sens. Et ça aussi, c'est une vérité. En même temps, la vérité, est-ce qu'elle est gênante ? Est-ce que voilà, ça, Bojina parlait tout à l'heure de la réception du film en Bulgarie, qui est parfois un peu douloureuse. Elle est douloureuse surtout pour des gens de ma génération qui pensent que le passé, il faut pas le toucher. Et donc voilà, c'est dommage parce que un respect trop révérencieux au passé, c'est finalement stérile, quoi. Hein, il faut aussi un peu... je sais pas, il y a une phrase qui me revient de Bachelard, il faut trahir ses fantômes. À un moment donné, bon, non, les parents, on n'est pas encore des fantômes, mais on n'est pas des monuments non plus. Donc, on peut secouer l'arbre, et Bojina l'a secoué.
On va s'engouffrer dans un petit moment de nostalgie avec un nouveau morceau par Rameau. Et vous allez reconnaître, je pense, le cœur grenadine de Laurent Voulzy.
J'ai laissé dans une mandarine une coquille de noix bleue marine, un morceau de mon cœur et une voile
Alexis Armengol, on parlait d'usurpation d'identité. Si vous pouviez choisir une journée, être dans la peau de quelqu'un d'autre, vous seriez dans la peau de qui ?
Ma femme.
Et vous, Milena ?
Pas ma fille.
On sera parti de la vérité à traquer pour accepter finalement quelques mensonges bien réels eux aussi. Bojina Panayotova, son film s'appelle Je vois rouge, il est en salle depuis le 24 avril. Alexis Armengol, le spectacle s'appelle Y a pas grand chose qui me révolte pour le moment. Ce sera du 21 au 25 mai à la Comédie de Valence et puis du 5 au 25 juillet à la Manufacture à Avignon. Rameau sera en concert le 5 juin au Point Éphémère, puis en tournée et son EP s'appelle À nouveau sauvage. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique ce soir. Merci à Philippe Mercher et Laetitia Delgado. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit. Dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.